C'est la semaine de la vie sur Phare FM et on en parle donc tout au long de cette semaine puisque on sait qu'Halloween approche et nous on a envie de fêter la vie, voilà, sur Phare FM. C'est ce qu'on fait avec notre invité aussi qui est avec nous ce matin, Thomas.
Oui, c'est Jérémy Poulet. Alors rebonjour Jérémy, est-ce que ça va toujours ?
Rebonjour, ça va toujours, je suis très très heureux d'être avec vous, les chroniqueurs, mais également les auditeurs.
Ah ben on est ravis de pouvoir passer ce moment avec vous, je le rappelle, vous êtes pasteur, papa, mais aussi guitariste, motard, bref, on pourrait rajouter plein de casquettes. On va se concentrer sur la casquette de pasteur et papa ce matin.
Et oui, et puis on rappelle quand même que vous êtes aussi auteur hein, de Soyez des hommes, cette chronique que vous entendez sur Phare FM. Et on voulait parler ensemble ce matin, Jérémy, on le disait, de cette fête d'Halloween. On a compris justement depuis plutôt ce matin que ce sujet vous passionne, mais pourquoi exactement ?
En fait, ce qui me passionne, c'est que beaucoup de gens ne savent pas, ne réalisent pas ce qu'est en fait cette fête Halloween. Et pour beaucoup de nos contemporains, en fait, Halloween, c'est juste une soirée avec des déguisements mortels, des sucreries, un moment de fun, les enfants, tout ça. On organise ça, on sort avec les amis, on se fait peur, on tente de dédramatiser les histoires de monstres. Et tout ça paraît très, très bon enfant. Mais si les gens savaient.
Et oui, justement, avant d'aller plus loin, on aimerait revenir avec vous un petit peu sur l'histoire. Vous allez vous transformer en prof d'histoire quelques minutes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la genèse et les racines profondes de la fête d'Halloween que beaucoup de personnes ignorent ?
Alors en fait, l'origine de Halloween se trouve dans la culture celtique. On est, pour refaire l'histoire, à peu près 300 ans avant Jésus-Christ. Et puis à cette époque, en fait, on fête la nouvelle année. Le soir, le passage, c'est du 31 octobre au 1er novembre.
D'accord.
Et en fait, date capitale dans la structure du culte celtique. Je m'explique. En fait, on a un prince de la mort. Il s'appelle Samhain. Et il était fêté le 1er novembre, au moment où le soleil, le roi Lugh, se cachait. Et les druides, qui étaient des personnages religieux importants, prétendaient que Samhain, donc le dieu des morts, revenait sur la terre avec des esprits de mort. Et les morts de l'année en cours émergeaient des profondeurs de la terre pour hanter leurs anciennes demeures.
Oula.
Donc, c'est plutôt glauque. Quand on y va, ça, c'est plus la même histoire. Et pour apaiser le prince des morts, les druides organisaient des sacrifices d'animaux et d'êtres humains, ce qui est juste horrible quand on pense à ça dans notre réalité. Bref, c'était un temps qui était marqué par la peur, l'anxiété, puis c'était un moment propice pour les druides, en fait, de demander des dons aux vivants. Et donc, pour ce faire, ils sillonnaient les villages en tenant dans leurs mains un navet vide dans lequel était taillé un visage. Ça vous fait penser à quelque chose ?
La citrouille.
Eh ben oui,
et
forcément.
De cette... se trouvait une bougie. Ils avaient un slogan qui était le fameux « trick or treat », ce qui veut dire, en fait, dans le contexte, « offrande ou malédiction ». Tu me donnes ou j'appelle sur toi la malédiction des morts. Et donc, sa main était célébrée en Irlande et en Écosse, et puis elle a été progressivement, dans notre partie du monde, remplacée par la Toussaint, introduite le 1er novembre par l'Église catholique. C'était aux environs du 8e siècle. Et donc cette fête qui a été exportée aux États-Unis par les Irlandais au 19e siècle, elle a pris une grande ampleur là-bas. Elle est devenue la fête que l'on connaît aujourd'hui. En fait, à l'époque, c'était les migrants irlandais et écossais qui se sont installés sur ce nouveau continent. Et ils ont apporté avec eux leurs contes, leurs légendes, leurs fêtes, etc. Et depuis, Halloween est célébré donc principalement aux États-Unis, au Canada, en Australie, en Irlande, en Grande-Bretagne. Et traditionnellement, c'est ce que l'on connaît nous aujourd'hui, le soir d'Halloween, les enfants portent des déguisements qui font peur et qui sont aux portes. En fait, ils rappellent l'histoire des druides. Ils se remettent dans la position des druides de cette époque. Et ils vont de maison en maison pour réclamer des bonbons avec cette fameuse formule « trick or treat ». Alors, les Français disent, ils disent pas « offrande » ou « malédiction », ils vont dire « des bonbons » ou un sort. Et en fait, en référence à ce fameux trick or treat que les druides prononçaient. Et donc les enfants, ce qui est terrible, c'est que les enfants déguisés symbolisent les âmes des morts qui venaient rendre visite aux vivants dans la nuit du fameux Samhain celtique.
Wow.
Et donc le nom Halloween est une altération de All Hallows Eve qui signifie le soir de tous les saints.
Eh bien c'est très intéressant, ouais. Merci Jérémy.
C'est sordide.
De comprendre tout ça. Ouais, non mais c'est incroyable.
Désolé, je peux pas changer l'histoire, elle est sordide, mais... C'est une réalité.
Vous nous avez parlé de l'histoire celtique d'Halloween, c'était complètement glauque. Et puis du coup, on pourrait se demander en quoi est-ce que c'est si important de comprendre les origines d'Halloween aujourd'hui.
Eh bien parce que justement, c'est particulièrement glauque en fait. Et il nous appartient finalement aujourd'hui d'entretenir, d'encourager ou pas cette démarche. En fait, à dire vrai, quand on réalise que la fête est une démarche qui est à la base spirituelle, qui est quelque chose de glauque et de spirituel, elle s'inscrit dans quelque chose qui est justement et touche au monde spirituel. Donc, il convient de se positionner sur le plan spirituel. Ce qui se passe, en fait, avec cette fête, c'est que on a tenté, avec les années, de la faire passer du plan spirituel au plan juste culturel.
On aimerait parler aussi, justement, après avoir entendu un petit peu cette histoire d'où provient Halloween, quelle a été, justement, l'évolution de cette fête au fil des siècles, Jérémy ?
Alors, d'abord, donc, cette fête était irlandaise, hein, et puis les phénomènes de migration ont fait que les Irlandais se sont déplacés aux États-Unis. Et puis, là, ça a vraiment été l'explosion de cette fête-là. Et quoi que l'on en pense, en fait, en Europe, on adopte toujours la mode américaine, en tout cas en Europe de l'Ouest. Et cette mode, cette fête est arrivée, en fait, en France, spécifiquement à la fin des années 90. En fait, avant les années 90, c'était un phénomène américain, mais on n'en parlait pas tellement chez nous. Et la stratégie est juste géniale. Vous rassemblez des enfants, vous leur offrez un déguisement et vous leur proposez d'aller chercher des bonbons ensemble. Donc, franchement, quel enfant ne voudrait pas faire cette fête ? Et dans toutes les sociétés dites modernes, en fait, ça nous parle de quelque chose. On cherche toujours à faire passer Dieu, puis les choses religieuses, les croyances religieuses, l'existence du monde spirituel par-dessus bord. Il faut s'en débarrasser. Et c'est une façon, je dirais intelligente, même si je ne la valide pas évidemment, de soulager notre conscience envers les vraies questions qui sont souvent nourries par notre orgueil de croire que nous sommes nous-mêmes des dieux. Et donc, on va rendre les choses très très festives, très simples et très sucrées.
Et comment cette fête a réussi à s'imposer jusqu'à envahir nos rues, nos maisons et nos rayons de supermarché ?
Eh ben en fait, cette fête, si on l'analyse réellement, c'est surtout la fête du commerce. On est d'accord que, vous en parlez, les rayons de supermarché sont plutôt pleins. Et ça, c'est la puissance du poids du marketing. C'est il faut acheter, il faut consommer, il faut faire la fête. Et on est plus enclin à consommer quand notre esprit est en fête. Donc de quelque chose qui est extrêmement glauque, si on le tourne en fête, on consomme. Et ça, c'est les rois du marketing qui font ça. Est-ce que ça veut dire qu'on doit être contre le concept de fête ? Absolument pas. Mais en fait, tout n'est peut-être pas à fêter ou à célébrer. Imaginons à l'instant que le marketing décide de fêter un événement historique de notre pays qui aurait conduit à des milliers, des millions de morts, des drames, etc. En fait, avec raison, personne ne voudrait faire la fête. Mais quand on a oublié ou anesthésié l'origine du mal, alors on peut se réjouir avec n'importe quoi.
Donc on parle bien sûr de ces choses qui sont devenues inconscientes, qui sont inscrites dans nos cultures, dans nos sociétés. Est-ce qu'on peut pas fêter Halloween un peu de façon bon enfant, hein ? C'est pas si méchant que ça, nos enfants, quand ils font Halloween, ils se déguisent, ils mangent des bonbons. Finalement, c'est un effet de mode, donc est-ce que c'est vraiment l'occasion de se triturer la tête avec toutes ces explications, Jérémy ?
Ouais, c'est vraiment la question que les gens se posent souvent. Et qu'on se comprenne bien, hein, prendre du bon temps en famille avec les amis, les copains, les enfants, c'est pas du tout mauvais, puis je voudrais même encourager chacun et chacune à vivre ça. C'est vraiment top. La question, c'est est-ce qu'on veut le faire autour de la question de la mort, des monstres, des fantômes, des esprits et du sucre ? Vrai sujet, je pense. On a aussi le droit de réfléchir, et puis c'est un bon sujet. Et moi, vous savez, vous l'avez dit, hein, je suis un papa, et quand mes enfants étaient petits, il y avait tout un rituel que les auditeurs qui ont des enfants connaissent, c'est qu'il faut d'abord, en fin de journée, calmer les enfants qui sont surexcités, qui sautent sur les lits, qui veulent faire la fête. Et une fois qu'on a réussi cet exploit, il faut leur lire une histoire. Quand on est chrétien, on prie avec eux, on leur lit une histoire biblique. Et puis, on les met coucher, on ferme la lumière, on s'échappe à pas de loup de la chambre. Et d'un seul coup, la grande fête démarre, c'est-à-dire que l'enfant qui, d'un seul coup, a peur, qui se pose des questions, qui pense qu'il y a un monstre dans le placard, qui a entendu un bruit, etc., etc. Et ça nous occupe toute une partie de la soirée parce qu'il faut le rassurer quant à ses peurs, quant au monstre, etc., etc. Et on fait ça toute l'année. Et le soir de Halloween, il faudrait en fait tout faire voler en éclats et puis d'un seul coup jouer avec les monstres. Donc c'est là où je me dis, mais c'est pas hyper cohérent en fait.
Ouais, c'est clair, et du coup, qu'est-ce qui pourrait être négatif, hein, pour les enfants de se déguiser en monstre ? Quel serait l'impact alors qu'ils ont peur des monstres tous les soirs de l'année ?
En fait, certains font l'apologie du « il faut que les enfants se déguisent en monstres pour plus avoir peur d'eux ». Mais en fait, la question de la peur, elle est beaucoup plus large que ça. Il faut apprendre à nos enfants les choses de la vie, il faut les rendre solides, etc. Et en fait, cette fête nous parle de notre société qui a peur de la mort. Soit elle cherche à la cacher, soit elle cherche à la reculer, soit elle cherche à en rire et puis à faire une fête finalement autour de ça. Et pour beaucoup, en fait, la mort parle de la fin qui est définitive, puis elle soulève bien plus de questions silencieuses que de réponses. La mort fait peur à beaucoup parce que peu ont de certitude quant à la mort. Et c'est pour ça qu'en fait, on tente de la dédramatiser, de la rendre sympa, fun, sucrée et colorée. Et puis, en tout cas, le temps d'une soirée. C'est C'est ce que les gens font, en fait. Tout comme le monde spirituel, autant qu'elle renvoie. En fait, ce sont des adultes qui ont inventé cette fête. Ce ne sont pas les enfants. Mmh. Donc, on dit, ouais, c'est pour nos enfants, etc. Mais en fait, ça nous parle de nos peurs à nous, les grands-enfants. Présenter les monstres, les esprits, les fantômes comme cool n'a pas d'impact positif, en fait, sur nos enfants. C'est une forme de mensonge pour eux. Et ça ne les aide pas, ça ne les équipe pas, finalement, pour la vie de tous les jours.
Et une vraie question qu'on pourrait se poser, Jérémy, c'est que dire aux enfants, qu'est-ce qu'on peut dire à nos enfants qui se trouvent confrontés finalement à devoir participer aux différentes activités animations de la fête d'Halloween, parce que oui, parfois à l'école, on peut être confronté à ça.
Ouais, effectivement, et je me souviens que c'était la question chaque année récurrent quand les enfants étaient petits. Et en fait, je pense qu'il faut, premièrement, il faut juste expliquer aux enfants ce qu'est cette fête, ce qu'elle représente. Mmh. Et l'objectif n'est pas, comme certains pourraient le faire à tort, de leur faire peur. C'est-à-dire que les enfants sont pour rien, finalement, dans le choix des grands, dans le choix des écoles, etc. Donc, faut surtout pas leur faire peur, mais il faut leur expliquer ce que c'est. Il faut leur expliquer aussi, quand on a la foi, ben, toute la différence que ça peut apporter d'avoir la foi. Moi, je sais que, et je trouve votre thème, il est formidable, fêter la vie. En fait, c'est quelque chose que je veux faire tous les jours. Je veux pas attendre une fois par an pour le faire, mais je veux fêter la vie tous les jours, y compris le jour des festivités de Halloween, que ce soit à l'école ou dans le quartier, etc. Pareil, je veux pas attendre le 31 octobre pour me dire, tiens, il faut que je me réveille en tant que parent pour fêter la vie avec mes enfants, prendre du temps, les gâter, etc. Et je crois vraiment que c'est l'axe par lequel il faut passer. Et nos enfants, en fait, il ne faut pas qu'ils soient terrorisés non plus à l'idée de devoir fêter Halloween, entre guillemets, pour ce qu'elle est fait, enfin, pour ce comment elle est présentée dans les écoles, etc. Mmh. Mais je crois que c'est vraiment l'occasion de parler avec nos enfants de la vie, de la mort, du Dieu de la vie dans lequel on croit, de ce Jésus qui a traversé lui-même la mort et qui peut nous rassurer quant aux questions qui sont en lien avec la mort, parce qu'il la connaît, parce qu'il l'a traversée, puis parce qu'il est ressuscité. Et ça, c'est vraiment une opportunité formidable pour nous, parents, avec les enfants. J'encourage également tous les parents qui tentent du mieux possible d'élever leurs enfants avec sagesse et bonne morale. Pour une soirée, on sait que c'est pas génial de les inviter à devenir des monstres, mais je crois que c'est vraiment l'occasion de marquer la vie et de célébrer la vie avec eux.
De faire une énorme contre-soirée où on célèbre la vie, on invite les petits copains, carrément. Etc. C'est ce que vous disiez un petit peu plus tôt, Jérémy.
Ouais, tout à fait. Ça, moi, je l'ai fait, soit à la maison ou avec l'église. Et en fait, qu'importe le format finalement, mais pourvu qu'on célèbre la vie et que les enfants soient pas privés finalement de quoi que ce soit, au contraire.
Et j'ai juste envie de rebondir aussi sur cette réponse de Nathalie, parce qu'on posait une question du jour, Halloween, qu'en pensez-vous? Et qui nous dit, elle voit ça un peu comme une fête morbide, sans intérêt et commerciale. Et elle dit, vu l'année 2020, aussi remplie de noirceur et de drame, on a besoin de joie, de couleur, d'espérance et de fêter la vie. Et vu qu'on parle de la vie, bah, ça m'a un petit peu inspiré sur cela. Et bien, on a bien sûr encore une question pour vous, Jérémy.
Oui, vous êtes pasteur, Jérémy, et du coup, on se pose la question de la dimension spirituelle. Qu'est-ce que vous pensez de cette fête? Est-ce qu'elle a un impact spirituellement? Est-ce qu'elle a des conséquences? Oui, non, pourquoi, comment?
Ouais, en fait, le monde spirituel, c'est une réalité, hein. Quoi qu'on en dise ou qu'on en pense, mais je le répète, historiquement, c'est une forme d'invitation des esprits à venir rencontrer les vivants. C'est la menace de la malédiction si j'ai pas ce que je demande. Donc déjà, juste dans le concept, c'est quand même assez particulier. Mais la Bible, au-delà de ça, nous enseigne, elle nous appelle en fait à maudire. À maudire, mais à bénir, c'est-à-dire à prononcer le bien plutôt que le mal. En fait, il faut qu'on prenne conscience de ce que l'on fait, à quoi on s'associe. Est-ce que finalement je veux participer à la mort ou est-ce que je veux participer à la vie? Est-ce que je veux semer ça dans le cœur des enfants ou des adultes ou pas? La Bible nous met en garde sur le monde spirituel. En fait, c'est une réalité, puis Dieu est particulièrement clair, même pour quelqu'un qui ne serait pas féru d'études bibliques. Dieu fait une demande spécifique dans le livre du Lévitique, chapitre 19, verset 31. Il va dire, ne vous tournez pas vers ceux qui évoquent les esprits, ni vers les devins. Ne les recherchez pas de peur de vous souiller avec eux. Je suis l'éternel, votre Dieu. Il y a un côté, en fait, quand je flirte avec la mort, ça vient souiller, ça vient salir mon âme. Et je vais en prendre conscience. Et c'est pour ça qu'en tant que pasteur, je défends le fait de justement côtoyer plutôt celui qui est la vie plutôt que ceux qui sont la mort.
Qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui du fait qu'on s'amuse de la mort, du mal? Est-ce que vous pensez qu'il y a des choses sacrées qu'il faudrait prendre plus au sérieux que ce qu'on fait actuellement?
Forcément, oui, je le pense, mais en même temps, je ne veux pas incriminer les gens de notre société, parce qu'en fait, la plupart n'y sont pour rien. Finalement, quand on ne sait pas, on ne peut pas agir comme si on savait. Par contre, une fois que l'on sait, c'est plus difficile de faire comme si on ne savait pas. Pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là, finalement? En fait, jusqu'à la fin des années 60, le monde était moral. Je m'explique, on connaissait le bien, on savait ce que c'était, on connaissait le mal, on savait ce que c'était, Et en fait, il était bon, il était louable, il était noble de faire le bien. C'est-à-dire qu'on mettait de la valeur sur, le, sur les valeurs qui étaient bonnes, le bien. Mmh. Et puis à la fin des années 60, début années 70, la société est devenue immorale. C'est-à-dire qu'on savait toujours ce qu'était le bien, on savait toujours ce qu'était le mal. C'était vraiment identifié, mais ça devenait cool finalement de faire le mal. Mmh. C'est ce qui était vanté, c'est ce qui était célébré. Et puis début des années 2000, le monde est devenu en fait amoral. C'est-à-dire qu'il ne sait plus ce qui est bien, ce qui est mal. Il y a une espèce de disparition de la conscience, de la compréhension de qu'est-ce qu'on peut faire, pas faire, le bien, le mal, la mort, la vie, etc. Une espèce de grand mélange où tout est vraiment diffus et dissous. Et on a perdu donc la compréhension de ce qui était bien et de ce qui était mauvais. Mmh. Et je crois que ça a vraiment impacté plein de choses, que ce soit les décisions politiques, que ce soit les décisions culturelles, les choix culturels. Et en fait, il nous appartient de chercher, de repartir à la conquête de la compréhension du bien et du mal. Mmh. Notre société, en fait, malgré elle, accomplit cette parole de l'Écriture qu'on trouve dans Ésaïe 5, verset 20, qui dit « Malheur à vous qui nommez le mal bien et le bien mal, vous qui changez la lumière en ténèbres et les ténèbres en lumière, vous qui changez l'amertume en douceur et la douceur en amertume. » En fait, Halloween me parle de ça. C'est mmh. qu'on met de la lumière sur quelque chose qui est ténèbre. Mmh. Et je crois que, en fait, Dieu voudrait que juste on comprenne que ce qui est ténèbre est ténèbre, mais ce qui est lumière. Et ce qui est magnifique, c'est qu'à la fin, c'est toujours la lumière qui gagne. Pour s'en convaincre, enfermez-vous dans une pièce noire, allumez le bouton de la lumière, et en un instant, les ténèbres ont disparu, la lumière est revenue. Bien, en fait, je crois que quand on cherche le bien, c'est exactement ce que l'on vit à l'intérieur, dans nos vies.
Eh bien, merci Jérémy. Et puis concrètement, si on parlait de côté pratique, comment eh bien, vous positionneriez.
Pas facile à dire.
C'est pas un mot facile. Face aux enfants qui sonnent à la porte. Parce que c'est vrai, là, on entend tout ça, puis on se dit mince, mais alors comment je dois réagir quand je vois ces enfants arriver?
Mais vous êtes pasteur, du coup, vous donnez un verset biblique à la place des bonbons, c'est ça? Sur un petit papier?
Non, encore une fois, je le disais, mais en fait, les enfants, ils sont pour rien. Il ne faut pas punir les enfants. Donc, on peut soit ne pas ouvrir tout simplement, et puis on laisse un mot sur la porte si on ne veut pas être dérangé, je peux comprendre ça. Ou on peut ouvrir la porte, remettre des bonbons aux enfants, parce que, ultimement, c'est ce qu'ils viennent chercher. Par contre, on peut laisser un petit courrier dans leur panier, dans leur sac, pour les parents, et dans lequel on explique ce qu'est la fête de Halloween. Et puis, on peut simplement leur dire qu'on prie pour eux et qu'on les invite à accueillir la vie.
Ben merci pour ces conseils pratiques. Moi, je saurais quoi faire dimanche soir.
Eh bien, on a tellement de questions. Hein. C'est tellement intéressant aussi d'en parler avec vous, Jérémy. On se demandait justement, qu'est-ce que nous dirait Jésus s'il était physiquement parmi nous ce matin au sujet de cette fête?
Ah, mais ça, c'est une super question. Qu'est-ce que dirait Jésus, en fait? Qu'est-ce qu'il ferait? Ben, je pense que Jésus, en fait, aimerait suffisamment les gens pour leur rappeler que si la mort est le chemin de tout homme, en gros, on y va tous, ben, en fait, on peut être sauvé de celle-ci et vivre éternellement. Et ça enlève déjà plein de questions par rapport à la peur, et ça permet de entre guillemets, dédramatiser de la véritable bonne manière ce qu'est la mort. Mmh. Il nous dirait que la vie, elle est plus belle, elle est plus forte, elle est plus précieuse que toutes les pensées de mort. On voit un Jésus qui, en fait, dans les évangiles également, il prend soin des enfants. C'est-à-dire qu'on a un Jésus qui est concerné par ce que les enfants peuvent vivre, et il vient pour les rassurer, il vient pour les bénir, et il vient pas pour souffler sur leur peur, il vient pas pour les pousser dans un chemin de peur, pas du tout. Il prend soin d'eux, il les bénit. Qu'est-ce que ferait Jésus? En fait, il nous parlerait du royaume de Dieu. Mmh. Il nous rappellerait qu'en fait, il est le chemin, il est la vérité et il est la vie. La vie non pas seulement biologique, pour beaucoup, en fait, quand on pense à la vie, c'est la vie biologique, mais une vie abondante, la vie, la plénitude intérieure. C'est ce qui nous permet de reconnecter, en fait, avec la source de la vie qui est Dieu, le Père, et il nous le permet à travers sa mort et sa résurrection. Je le redis, Jésus a quand même traversé la mort et il a vaincu. Donc, c'est ça qui est magnifique, c'est ça que moi, je veux célébrer. Historiquement, dans cette fête des morts, là, on fait revenir les morts pour faire peur aux vivants. Eh bien, moi, le seul mort que je connais qui est revenu de la mort s'appelle Jésus. Il vient pas pour faire peur aux vivants, il vient pour les rassurer. Excellent. Il vient pour leur apporter un message d'espoir et de vie. Et c'est pas, il est pas juste là pour faire un truc cool à nous faire frissonner. Il est là pour nous rassurer et faire voler en éclats nos peurs et nous reconnecter à la véritable vie. Vous savez, quand on pense à ce qu'a fait Jésus. C'est super symbolique, mais c'est vraiment fort. Il a laissé le tombeau vide. En fait, il a vidé la mort de son pouvoir. Et c'est pour ça que je veux pas fêter, entre guillemets, la mort en faisant revenir des choses d'outre-tombe. Jésus a vidé la tombe.
Mmh. Ah, c'est tellement bien dit. Un petit mot pour la fin avant de se quitter, pour tous les auditeurs, les auditrices qui nous écoutent, Jérémy Poulet.
Alors, moi, j'aimerais vous encourager cette semaine à fêter la vie. Et en fait, si vous ne savez pas la fêter, eh bien, fêtez Jésus, qui est l'auteur de la vie. Et osez tenter de l'inviter, lui, plutôt que d'inviter les esprits de mort, mais inviter l'esprit de celui qui est vivant. Invitez Jésus à fêter cette fin de semaine avec vous. Ça va faire toute la différence.
Waouh, que dire après ça? C'est complet, ça y est, semaine c'est de clair. La vie. On comprend pourquoi. On comprend mieux pourquoi. Merci Jérémy Poulet d'avoir été avec nous. Merci pour tout cet éclairage au sujet de cette fête d'Halloween.
Et puis... Lisa, il fallait que je lise cette réponse de Jean-Christophe très 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 rapidement qui dit qu'il va rien faire pour Halloween et il ne mange pas de bonbons, parce qu'on en parlait un peu plus tôt ce matin. Moi, je pense que je vais manger un maximum de bonbons dimanche pour fêter ça, pour fêter la vie et la gélatine de porc sucré. Voilà.
Et puis, merci Thomas pour cette précision. Merci Jérémy, en tout cas, pour votre présence
sur
cette antenne, l'antenne de Phare FM.
Merci à vous.
On se retrouve, nous, bien sûr, demain à partir de 6h.
Prenez soin de vous. À demain, on se laisse en musique avec La Chapelle Musique, ses présences. Ciao, ciao Jérémy et bonne journée à tous.